Tu fais bien de nous prévenir. Et elle l'a dit. Je te préviens. On jase.
On jase.
Elle fait bien de nous prévenir parce que
tu
c'est
l'avais
vrai
quand même
qu'on jase. C'était pas pire, hein?
Ton temps était bon.
Ouais. Météo pour aujourd'hui. Il annonce la pluie, les amis. Généralement nuageux. Puis ça, il pourrait y avoir des orages. Il y a un avertissement de pluie présentement.
J'adore.
Selon Environnement Canada. Alors, c'est à surveiller. Il pourrait tomber jusqu'à 30 mm de pluie et parfois de la pluie forte. Et c'est la même chose pour demain, Halloween, avec nos petits loups.
Ça, c'est un petit peu plus plate. Puis là, il y a le gros débat actuellement. Là, on prend-tu l'Halloween samedi? Ça, je vous laisse le débat. Mais chose certaine, quand t'es jeune, là, je vais faire du ce que vous faites quand il y a des tempêtes de neige.
Ouais,
là.
C'est ça.
Moi, je me souviens des Halloween avec le parapluie.
Il y avait 4 pieds de neige!
Mais je me rappelle, avec mes sœurs, des Halloween détrempés, puis on le faisait sur l'avenue Royale, là, où les maisons sont séparées par 5 km, là, fait que c'était pas très rentable, où on habitait, mais quand même, avec notre parapluie toute la journée. Au grand vent, sinon, je me rappelle le m'obstiner que ma mère pas mettre mon manteau d'hiver en dessous de ma robe de princesse,
ben
parce
oui,
que j'avais plus l'air d'une princesse.
Hey,
il y avait rien qui nous arrêtait, là.
Rien nous arrêtait, nous autres non plus, à l'Halloween.
Moi, je suis vraiment ma tante là-dessus, là. T'sais, mon chum était comme, il annonce la pluie à l'Halloween, c'est vraiment la pluie. J'étais comme, peace,
on s'en va.
On sort. Puis, je me rappelle d'une année quand mon plus vieux était petit où est-ce que, tu sais, les abris tempo partaient au vent,
oui.
Puis les chaises de patio se retrouvaient chez les voisins, mais ça en était dangereux. Puis je me dis, non, c'est pas grave.
Mais
on
ça, il y a 5 ans, c'était ça.
Patio par la ouais. Tête.
C'était la même chose que
oui,
t'as avec ton
y a
gars.
Eu, ben, c'est sûr que
on
le
était là.
31 octobre, là, c'est très incertain. Il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut faire beau soleil, t'as ouais. Aucune idée.
Un vampire existe
mais
quand
moi,
il fait pas beau.
Je suis de l'école, on change pas la date. Parce que de toute façon, je m'excuse, mais c'est quand même... Comment dire? Ça va sonner dans les portes du monde. Là. Faut que tu le saches là, quand est-ce que ça va arriver. Faut que ce soit prévisible.
C'est ça.
Fait que là, tu commences à changer les dates. C'est pas vrai que tout le monde... Tu sais, mettons, t'es une municipalité, parce que moi, j'ai découvert ça dans les dernières années, que c'est... l'Halloween était de juridiction municipale. J'avoue, j'y avais jamais pensé avant qu'on se mette à reporter l'Halloween. Là, mettons, la ville a dit « OK, tant pis, on met ça samedi ». C'est pas tout le monde qui va être au courant. Là.
Ben non.
Nous autres, on passe notre vie à écouter les nouvelles. Là,
le prêtre passe plus aux portes. Là, pour
le
nous
prêtre passe plus aux portes pour
non,
nous renseigner. Puis il n'y a pas
de
un crieur de rue qui va nous le dire. Fait que là, toi, t'es chez vous, tu sais pas que le monde va sonner à la porte. Non, non, non.
Puis quand
c'est
le
31,
enfant,
c'est le 31.
Quand t'es enfant, c'est au pire, le 31, c'est un mercredi. Là, ça fait que ta semaine est très funky, jazzy.
Ben
c'est
oui.
Le fun.
Moi, je trouve que ça nous sort de notre zone de confort. Voilà. Puis je suis bien d'accord avec ça. Cela étant dit, je sais qu'il y a des municipalités qui jouent à ça autrement, mais je suis en désaccord.
Full d'accord, garde. Je vais leur mettre des chauffements dans leur gant magique. Et
oh,
voilà.
Les petits gants
magiques. J'ai une année qui pleuvait tellement, puis mon fils avait un costume en papier mâché. On a tellement ri. C'était un robot. C'était Bender dans Futurama, puis il est revenu à la maison. Bender, là, il était rendu un tout papier mouillé. C'était tellement drôle.
De toute façon, là, je vais conclure le débat avec ceci. S'il fait une grosse tempête de neige, le 25, on déplace-tu Noël? Ben non, on déplace pas Noël. S'il fait une grosse tempête de neige à le 31 là, à minuit pour popper le champagne, on le pop-tu le 1er janvier? Ben non, on le pop le 31 à minuit.
Puis le 31.
Ouais, mais on est au chaud dans des maisons.
Fait que l'Halloween, c'est la même affaire.
C'est la même affaire, t'as pas raison.
La même affaire.
T'as pas raison.
Hey, voyons, il y en a qui se font des igloos à Noël. Non, c'est pas grave, ok, c'est bon, on arrête.
Non, on arrête.
Je suis
arrête.
Référendum de 1995, le 30 octobre, on fête les 30 ans aujourd'hui. Antonine, rappelle-nous un peu le contexte, parce que ça venait aussi dans un premier mandat péquiste. Jacques Parizeau, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, avait dit « Je vais le faire, le référendum ». Mais Parizeau, tout seul, il y avait de la misère, il a eu besoin d'aide.
Oui, écoute, là, je pourrais t'en parler pendant 2h30. C'était le 30 octobre 1995 que le vote du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec s'est tenu. Jacques Parizeau, ça a toujours été un peu celui qui était vu comme le pressé, le convaincu, une de ses citations les plus célèbres, puis d'ailleurs que je pense qu'il se retrouve sur sa pierre tombale, c'est « N'ayez pas peur
okay. ».
Donc, pour lui, c'était son approche. Il y avait premier référendum. Et il faut quand même se rapporter à l'époque, il y avait eu un référendum 15 ans avant. Là.
Ouais.
Là, nous, on est 30 ans plus tard.
C'est ça.
Puis on a encore peur. Tu sais, on est comme terrorisés à l'idée.
15 ans avant, en plus, où ça avait été 40-60, 60 pour le nom. Là. Donc, t'es un nom très significatif.
Alors que nous, ça fait 30 ans. Puis c'était quasiment à égalité. Mm-hmm. Là, le nom l'a gagné vraiment sur la fesse, comme on dit. Mais oui, Jacques Parizeau qui a fini par aller chercher de l'aide. En fait, il y avait à l'époque comme trois amigos. C'était Jacques Parizeau, premier ministre du Québec. Il y avait Lucien Bouchard qui arrivait de la scène fédérale. Puis le troisième amigo, c'était Mario Dumont, chef de l'ADQ, qui lui aussi s'était positionné dans le camp du oui, jeune Mario Dumont. Lucien Bouchard était plus populaire que Jacques Parizeau, à un certain moment, à un certain point dans la campagne. Ça a été très dur pour Jacques Parizeau de, disons, lui laisser plus
d'espace. Laisser aller son bébé, entre guillemets. Là. Puis là, on avait nommé Lucien Bouchard négociateur en chef avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a pris toute la place. Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est à ce moment-là où le oui, qui était peut-être à 42-43% d'un sondage, s'est mis à monter jusqu'à 50%.
T'as absolument raison. Puis ça nous rappelle aussi, tu sais, ces temps-ci, il y a beaucoup de sondages sur la souveraineté, puisque le PQ est premier dans les sondages et qu'il promet un référendum dans un premier mandat. Alors, on a un sondage par mois sur les intentions de vote dans un potentiel référendum. Puis là, on trouve que les résultats sont pas si extraordinaires. Puis on se dit vraiment, le PQ va-t-il le faire, le référendum? C'est de la folie. Bien, avant le référendum de 1995, c'était exactement la même chose. Les sondages n'étaient pas si extraordinaires, mais il y a un mouvement qui s'est créé à un moment donné, puis le débat a poussé jusque-là. Et il faut dire aussi que la question qui était posée aux gens, c'était sur une séparation du Québec, oui, mais avec un partenariat avec le
partenariat
Canada.
Négocié avec le Canada.
C'est une question bien longue, en tout cas.
Oui, exactement. On l'a lu ce matin. Là, quand le oui commence à monter dans les sondages, le camp du non commence à paniquer. Et dans mes souvenirs, on va chercher du monde partout au Canada. On les amène à Montréal pour qu'ils nous disent « On vous aime! »
Je veux juste vous rappeler que tout ça, là, tu parles du love-in, le grand love-in de Montréal. Tout ça, c'est un des événements dont on va reparler plus tard dans la commission Gomery, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé.
Scandale des commandites.
Scandale des commandites dans le camp du non. Et là, ça y est, tout le monde débarque. Le Canada nous aime tout à coup. Tout le monde débarque à Montréal avec des drapeaux, des espèces de drapeaux du Canada avec une petite touche de bleu dessus, d'ailleurs. Qu'on n'a plus jamais revu par la suite. Et là, les Canadiens nous lancent un grand message d'amour.
Because it's important to me that people in Quebec realize that Quebec is important to us out west. It means a lot. We don't want our country broken up.
Ça a-tu vraiment donné quelque chose d'amener des gens de l'Alberta puis de l'Ontario dire « Brisez pas notre pays, on vous aime. »
Mais quand on voit un résultat aussi serré, mettons que ça a convaincu, je sais pas, mais quelques centaines de personnes.
Ça a fait la différence.
Tout peut faire une différence comme telle. Et ce grand love-in est resté une espèce de symbole aussi des promesses brisées. Parce que, évidemment, quand on tient un référendum comme celui-là et qu'il y a un résultat aussi serré à la fin de tout ça, tu te dis le Canada n'a pas le choix de renégocier un peu la relation du Québec avec le reste du Canada et le fédéral dans une nouvelle entente, finalement. Et par la suite, bruit de grillon. C'est une promesse que je pense qu'on peut considérer comme étant brisée.
Bien, Jean Chrétien, plus investi de l'énergie dans le fameux scandale des commandites pour faire de la publicité au Québec, comment le Canada était bon, que de vraiment négocier avec le Québec des nouvelles ententes.
Et la loi sur la clarté référendaire, question là, de nous mettre encore plus de bâtons sur les roues si jamais le Québec voulait de nouveau essayer de prendre son envol.
Le soir fatidique du 30 octobre, 94% de gens qui ont exercé leur droit de vote, c'était du jamais vu. Je ne sais pas si on va frapper ça un jour dans des élections, un référendum au Québec, ça me surprendrait
énormément.
Élections,
ce serait surprenant, référendum possible.
Possible, oui, peut-être. Le oui menait au début, là, les premiers résultats qui sortent, le oui est en avance. Je me souviens tout à l'heure, ce matin, je racontais que moi, j'avais une game de hockey, puis je suis en train de gauler dans les buts, puis je voyais la face de mon père dans les estrades, puis je savais que le oui menait, parce que mon père est fédéraliste à 100%.
Puis il avait la face longue.
Et puis, à l'Arpidrome de Charlebourg, comme à l'école.
C'est bon souvenir, ça.
Mais tu sais, les télés sur roulette, là. Ben, à l'Arpidrome de Charlebourg, il avait pris une télé sur roulette, il avait mis ça dans le hall, et il diffusait Radio-Canada sur la télé parce que là, c'était tellement historique, c'était tellement immense, c'était avec 94%.
C'est drôle même que la game de hockey soit maintenue, pour être honnête, mais c'est ça. Je viens d'une famille tellement politique que nous, la Terre aurait été tournée, vous comprenez? Moi, mon souvenir, c'est, j'ai 10 ans, 11 ans, mettons. On est chez des amis de mes parents, puis on écoute les résultats référendaires, puis au début de la soirée, effectivement, les gens sont joyeux. Vous comprendrez que moi, j'étais dans une gang un peu plus, un peu moins fédéraliste que la tienne. Les gens sont de bonne humeur, et à un moment donné, effectivement, le vent se met à changer.
Ça arrive au bon moment. Le nom vient de prendre l'avance, vous avez remarqué?
L'avance, M. Bélanger.
Oui, on arrive au bon moment. 6000 voix, 6400 voix.
M. Bélanger. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Michel Bélanger, président du comité organisateur référendaire? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête maintenant que Le nom a pris l'avance. Vous y avez rêvé.
C'est la première fois que je suis aussi bien reçu à Radio-Canada depuis longtemps.
Je trouvais ça tellement bon que je l'ai laissé. Tout ça pour dire, il devait être à peu près, quoi, 20h45, 21h quand ça arrive, hein, que là, le nom prend les devants pour la première fois. Et puis là, ben ça continue à s'échanger. T'sais. On le voit sur la télé. Là, à un moment donné, c'est même devenu à un moment donné 50%, le même nombre de votes pour le camp du oui et le camp du non.
Dire que t'es stressé quand il y a une game des Jays puis des Dodgers ces temps-ci, là, c'est comme l'avenir politique, c'est encore plus prenant.
L'enjeu est énorme, là. C'est incroyable. Puis, t'sais, même si des fois, les gens qui sont plus souverainistes, on essaie un peu de dire ça sera pas si pire que ça. C'est quand même une grosse affaire de faire un nouveau pays.
Mais de se séparer du Canada et d'organiser un nouveau pays. Bruno, vois-tu, super intéressant par texto qui mentionne, moi je pense que Lovin a fait sortir le vote. Ça se peut? Ça se peut fort bien que ça a fait sortir le vote du côté du camp du non. 22h20 à peu près, Antonine, là c'est là que les souverainistes sont tombés en dépression. Ah oui, hein? Couperet tombe et on écoute justement Bernard de Rome.
À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens aux métropolis, une majorité de Québécois pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une majorité, une mince majorité, pour l'instant 34 434 de majorité. Les troupes du non l'ont échappé belle. C'est une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même. Il semble évident que le nombre anormalement élevé d'indécis qu'on décelait encore ces dernières heures a opté en grande partie pour le non. Des gens qui, peut-être seuls dans l'isoloir au moment de faire leur choix, confrontés une dernière fois avec la question qu'ils avaient devant eux, ont choisi la prudence face au projet que lui proposait le gouvernement du Parti québécois.
Est-ce que les gens ont vraiment choisi la prudence?
Ben, c'est la force de l'inertie aussi, hein? Puis il faut le dire, c'est pas rien. Okay? Il y avait beaucoup d'enjeux. Puis dans une campagne référendaire, là, on décortique tout. Qu'est-ce qui va se passer avec l'armée? Qu'est-ce qui va se passer avec nos infrastructures portuaires? Qu'est-ce qui va se passer?
Et avec les emplois fédéraux, qu'est-ce qui va se passer avec la monnaie?
Moi, je fais souvent la comparaison, la métaphore avec un divorce. Tu sais, quand tu dis « OK, je suis plus heureux dans ma relation », tu y penses deux minutes, tu dis « Ouais, je vais me séparer ». Après ça, quand tu te mets à regarder combien ça va te coûter, comment tu, okay, les enfants, la garde, la maison, le chalet, la voiture, oh mon Dieu, mes beaux-parents. Tu sais, dans les détails.
Non, en effet.
Ce que les médecins qui veulent quitter le Québec font en ce moment en train d'évaluer.
Ben oui, probablement. Puis c'est juste eux, là, on parle vraiment d'une multiplication d'enjeux. Donc, c'est ça. Donc, à partir de cette heure-là où Bernard de Rome annonce que si la tendance se maintient, le non l'emportera, finalement, ça terminé à 50,58% ce résultat-là. C'est le désarroi dans le rassemblement du oui. Quand on revisite les images d'archives, on voit vraiment là, un abattement des gens qui pleurent. Vous allez voir aussi, si vous regardez les images d'archives, beaucoup de vedettes, des artistes que vous allez reconnaître probablement qui pleurent dans les bras des uns des autres. Eh bien, moi, c'était pareil chez nous dans notre salon. En fait, c'était vraiment l'abattement. Et la cerise sur le sundae, en fait, j'ai envie de dire la citrouille sur le sundae. En plus, on était à la veille de l'Halloween. C'est le discours de Jacques Parizeau.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
J'ai déjà fait une entrevue avec Jean-François Lisée qui écrivait les discours de Jacques Parizeau, puis il dit « J'ai jamais écrit ça, là. »
Non.
Ça a sorti...
Ça a été une déception, dans les rangs péquistes, une grande déception, et beaucoup de gens qui ont regardé, qui ont écouté ces mots-là, qui se sont dit « Quelle erreur! » Puis M. Lisée le dit lui-même, il dit « Ce moment-là, Jacques Parizeau a raté sa sortie. » Et c'était des propos qui étaient très malheureux. L'argent, certes, parce que, comme on l'a su plus tard,
scandale des commandites.
Mais comme ça, de s'en prendre...
Le vote ethnique, ce que Jean-François Lisée m'avait dit dans l'entrevue, c'était de dire, on le savait, il n'est oui. qu'il y avait une partie de la population qui était issue de l'immigration qui votait pas pour nous. Fait que ça avait rien changé.
Pourquoi c'est plus la faute de ces votes-là que du vote frileux des francophones? T'sais, je veux dire, c'est...
Probablement qu'ils cherchaient aussi à ce moment-là à comprendre parce que c'était très émotif. Ouais, c'est une prétention personnelle. Mais...
ces réflexions à haute voix, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de péquistes qui s'en seraient passés parce que ça a vraiment eu un effet dévastateur dans les années suivantes. Et ça a ajouté finalement au marasme dans lequel le PQ s'est retrouvé pendant plusieurs années par la suite. Moi, chez nous, en tout cas, quand ce discours-là a eu lieu, mes parents ont juste fermé la télévision. Non, et j'ai l'impression que c'est très symbolique parce qu'il y a pas mal de Québécois qui ont décroché de ces questions-là pendant de nombreuses années. Un deuxième référendum perdu comme celui-là, ça a des impacts importants. D'ailleurs, Lucien Bouchard le disait récemment, hein, il voulait nous faire peur un peu avec la tenue d'un troisième référendum, disant « Imaginez, on en perd un troisième, là, c'est fini pour toujours. »
Mais Lucien Bouchard a pris un pas de recul, justement, à la suite de ce deuxième référendum-là et à la suite des propos de Jacques Parizeau aussi. Puis ça l'a amené le PQ dans cette zone-là de bon, vous n'êtes pas ouvert sur le monde, vous voulez faire un pays parce que vous voulez vous refermer. T'sais, ça les a amenés dans un rôle identitaire très problématique.
Mais c'était ma question parce que, mettons, moi, j'ai un an à ce moment-là. Oui, j'étudie l'histoire. Je veux dire, je suis passionnée de politique à la base, mais je n'ai pas senti, ressenti avec le commun des mortels cette époque-là. Je n'étais pas là, j'étais trop jeune. Est-ce que ça a créé une grande fracture profonde? On entend ça souvent, mais est-ce que ça a perduré sur des générations, tu sentiment-là?
Bien, c'est qu'on est toujours face à un scepticisme maintenant que le projet de pays, c'est un projet qui est ethnique, finalement. Et c'est toujours ça contre quoi on s'est battu, de dire non, construisez ce pays-là avec nous. Et bien, René Lévesque était reconnu comme quelqu'un qui avait énormément d'ouverture face aux communautés culturelles, notamment. Puis cette phrase-là est juste vraiment venue mettre une étiquette de nationalisme plus ethnique, finalement, qu'on essaye toujours de décoller et de refuser quand tu fais partie des gens qui veulent construire un pays. Maintenant, on sent un peu un regain de ces questions-là, mais il faut se rappeler que ça a été une longue traversée du désert après 1995. Lucien Bouchard est devenu premier ministre par la suite, et là, on ne parlait plus du tout de souveraineté. On était plutôt dans les coupures budgétaires et toutes sortes... il y a d'autres choses positives qui se sont passées aussi. Mais moi, en conclusion de tout ça, quand je regarde maintenant, ça fait 30 ans. T'sais, il y a eu 15 ans entre les deux premiers référendums, là, on a laissé passer un 30 ans. Il y a vraiment beaucoup de gens que j'entends dire « Moi, je n'ai jamais été consulté sur la question. » Puis j'entends beaucoup de fédéralistes qui disent « Là, c'est réglé, là, vous avez perdu deux fois, là, lâchez-nous avec ça. » Mais j'ai des petites nouvelles pour ce monde-là. Ça ne va pas mourir, cette idée-là, parce que la situation d'une nation au sein d'un pays qui... dans lequel, qu'on n'aille pas, mais qui dans lequel on ne se reconnaît pas, c'est de toute façon une situation qui va toujours créer un peu d'instabilité. Et la seule solution qu'on n'a jamais essayée, c'est quoi? C'est l'indépendance. On a eu des gouvernements fédéralistes, on a eu le gouvernement autonomiste de la CAQ. Donc, évidemment,
en sachant pas.
Ben oui, et ce débat-là va toujours exister.
Ouais. Beaucoup de monde qui dit pourquoi on n'a pas eu un recomptage à ce moment-là? C'était serré.
Le référendum volé, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les générations qu'on connaît en 1995.
Merci beaucoup, Antonine, pour ce cours d'histoire référendaire. C'est très apprécié. Oui. Beaucoup de commentaires positifs des auditeurs. Donc,
Au 418-971-1021, dites-nous, vous étiez où? Vous faisiez quoi? C'est quoi l'ambiance? Vous allez nous le faire vivre aussi à travers vos commentaires.
Moi, je l'ai commencé à l'aréna. Je l'ai fini chez nous avec mon père qui se débouche une Molson canadienne puis mon frère qui revient du Colisée en pleurant.
Ben c'est ça. Moi, tout le monde braillait chez nous, puis le lendemain, on passait l'Halloween. C'était vraiment surréaliste.
C'est vrai?
Moi, mon école primaire, puis je finis là-dessus, je sais, Jeff, qu'on pousse notre là. On avait fait un référendum à mon école primaire. Mais tu sais, moi, j'allais à l'école primaire, ça roussait
les gens
à Québec.
Pour l'exercice, le faire comprendre.
Ouais, l'exercice démocratique. Puis on avait gagné, en tout cas, notre pays, nous autres, à 95% à notre école primaire. On avait toute une douche froide avec le vrai résultat.
Vous avez donc ben des profs qui vous amenaient dans le courant souverainiste?
Non, c'est pas ça, là. c'est pas ça qui s'est passé.
Je fais des blagues, c'est bien. Non, merci beaucoup, Antour, honnêtement, pour ce moment-là, justement, d'histoire du Québec. Il fallait prendre le temps d'en parler, de ce référendum-là. Je sais pas si, au niveau là, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le sport, ça aurait une incidence, parce qu'écoutez bien ça.
Now Vlad Jr. hooks a ball down the left field line. They've got back-to-back to start game 5. 3 pitches in, 2-0 Toronto. Wow!
Victoire des Jays hier 6-1. Pascal, Antonine, ils ne sont qu'à une victoire de la Série mondiale. Alors là, j'ai pensé à ça matin. Là, vous allez me dire, Colin, que t'étires l'élastique, Jeff Fortin. Mais là, on est emprunt d'un patriotisme canadien extraordinaire. Les Jays vont aller battre les 31 autres équipes américaines, vont dire à Donald Trump, il n'y aura pas d'équipe championne dans ta Maison-Blanche, on s'en va au Parlement d'Ottawa avec Mark Carney, fêter ça. Le référendum, le oui diminue automatiquement.
Jeff, j'en reviens pas que tu me poses cette question-là. Il faut dire, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ça a l'air. Mais, ouais, fait que je vais juste m'abstenir de
j'aime
commentaire.
J'aime ça parce qu'Antonine essayait de trouver un argument.
Moi, je vais faire diversion en disant, on ressent un peu l'émotivité de la Coupe des Nations au hockey. Effectivement, il y en a qui vont amener du caractère politique à ça, mais juste par rapport à leur nouvel engouement face aux Jays, parce qu'il y en a plein qui n'écoutaient jamais le baseball avant. Mais pour ceux qui voulaient se rendre au stade, là, sachez que deux billets côte à côte dans section 3, rang 4, en ce moment, c'est 157 352 $ canadiens. Gantez-vous, hein? Il n'y a jamais rien de trop cher, semble-t-il, quand on est émotif.
Vous allez pouvoir vivre la série mondiale. Et Anto, je ne peux pas croire que ça ne te met pas des émotions.
Junior hooks a ball down the left field line.
Là, la balle est partie. C'est un circuit historique en 705 matchs dans l'histoire de la série mondiale. Jamais les deux premiers frappeurs d'une équipe avaient frappé deux coups de circuit. On vit l'histoire, Anto. Pas juste le référendum. On vit l'histoire.
Honnêtement, là, je ne ressens rien. Non, vrai.
OK. Après la pause, on va parler avec Rémi Villemur. On va notamment parler de Doug Ford, les filles. Hein? Il cite les médecins. On fait des publicités aux États-Unis. L'unité canadienne, là. Doug, il n'est plus là, pensé.
C'était pas supposé d'être l'ami de François Legault.
Ouais. On dirait que ça se déchire parce qu'il y a même le 1-800 Doug Ford maintenant.
Ben, c'est ça, il avait pris une petite bière ensemble. On va parler de ça avec Rémi Villemur dans quelques instants. Restez à l'écoute d'On en jase sur Boulevard 101.